Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Julien Rosa et Louis Drillon à la réalisation Marie Placé, prise de son Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série sur les affaires économiques et la criminalité en col blanc. Une semaine qui commence par ce que l'on a appelé l'affaire des quotas carbone. En 2007, conformément aux mesures européennes de limitation des émissions de CO2, la France a créé un marché des quotas carbone. Le principe était le suivant: chaque année, les entreprises se voyaient attribuer des quotas qu'elles pouvaient revendre ou racheter à d'autres selon leurs besoins. L'idée du pollueur-payeur convertie en marché financier. Il aurait pu en être ainsi pendant longtemps si quelques failles concernant la TVA n'avait été repéré et grassement exploité. Il était une fois des brigands courant de Paris à Tel Aviv et une gigantesque fraude au carrousel. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure du fait divers économique. Entendez-vous l'écho ? Avec nous aujourd'hui pour revenir sur l'incroyable histoire de la fraude au quota de carbone, Aline Robert, journaliste, auteur de l'ouvrage Carbone Connexion, publié chez Max Milo, et Maître Alain Habitant, avocat au barreau de Paris, qui a représenté l'un des protagonistes de cette affaire. À 14h50, les nouvelles de l'écho vous seront présentées par Arjuna Andrade. Aline Robert, Maître Alain Habitant, bonjour.
Bonjour Maïlys.
Bonjour. Aline Robert, d'abord ça a commencé par cette histoire, par une histoire européenne qui a dû se mettre en conformité avec le protocole de Kyoto. Et c'est peut-être là le début de l'histoire.
Tout à fait. Dans la lutte contre le changement climatique, les États européens se sont engagés à réduire les émissions de CO2. Et pour cela, elles se sont organisées en demandant aux entreprises de réduire leurs propres émissions. Donc 12 000 sites industriels en Europe ont dû s'engager à réduire leurs propres émissions. Pour organiser tout ça, on a choisi la voie du marché. Prendre un marché plutôt qu'une taxe, souvent, en tout cas selon la théorie économique, c'est plus efficace. C'est-à-dire que ce sera fait au moindre coût. Les économies de CO2 seront faites...
Selon la théorie libérale.
Voilà, selon la théorie libérale, disons selon la théorie, parce que dans la pratique, c'est rarement ce qui se passe. C'est un petit peu comme le cas de la concurrence. La théorie économique explique que la concurrence pure et parfaite, ça peut arriver dans la pratique, ça n'arrive jamais. Le marché pour réduire la pollution, ça peut arriver, ça peut bien se passer. C'est assez compliqué à mettre en place, surtout quand on a 12 000 sites industriels qui sont concernés. Et ça a été le cas quand l'Europe a mis en place son propre marché à partir de 2005. C'était les premiers à le faire et ça a été compliqué.
Alors l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de revenir sur cette idée, même si la mise en pratique était un peu différente puisqu'elle passait par les marchés financiers, ce principe du pollueur-payeur.
Voilà, c'est ça. On avait déjà essayé, en fait, aux États-Unis à mettre ça en place avec les producteurs d'électricité qui utilisaient du charbon. Le charbon émettait du soufre dans l'atmosphère et on avait des pluies acides qui détruisaient ensuite la biodiversité et la végétation. Donc, on avait déjà décidé de prendre les pollueurs par la main en leur disant « Écoutez, vous polluez, vous allez payer ». Et on a réduit le problème comme ça, parce que évidemment, les pollueurs préfèrent ne pas payer et réduire leur niveau de pollution.
Jusque-là, on voit les bonnes intentions. On va entendre Anaïs Delbosque dans l'économie en question le 6 octobre 2008 en parler. Anaïs Delbosque était responsable du club Tendance Carbone à la mission climat de la Caisse des dépôts.
Comment ça fonctionne ? On a un régulateur qui fixe un objectif d'émission. Cet objectif d'émission, on le convertit en quota d'émission, c'est-à-dire qu'un quota représente une tonne de CO2. Donc, comment ça s'est passé sur les deux premières périodes du marché européen ? Les États membres ont proposé à la Commission européenne un plan d'allocation de quotas qui précise pour chaque État quelles sont les installations qui sont concernées par le marché, combien on estime qu'elles émettraient sans contrainte carbone, donc sans marché, et quelle est l'allocation qu'on propose. Et ce plan d'allocation, il est validé avec certaines modifications éventuellement par la Commission européenne. Donc on a un niveau national d'abord et ensuite un niveau européen qui contrôle en fait les choix nationaux. Donc si on est Lafarge par exemple, on a pour chaque pays, on a une liste d'installations qui sont concernées par le marché, qui vont recevoir un certain nombre de quotas, de droits à polluer, de droits d'émettre. Donc concrètement comment ça marche. Après, en interne, on peut décider de gérer conjointement tous ces quotas au niveau européen. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des outils de mesure et de vérification de ces émissions, qui est un dispositif obligatoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les procédures de monitoring. Et chaque année, on va comparer les émissions par rapport aux quotas. Si on émet moins que ces quotas reçus, on va pouvoir revendre une partie de ces quotas sur un marché financier. Si par contre on émet plus que ce qu'on a reçu comme quota, on va s'approvisionner sur ce marché-là pour être en conformité avec ses engagements. C'est-à-dire couvrir toutes ces émissions de CO2 par des quotas.
Alors Alain Bitton, il y a un marché du carbone qui est créé.
Tout
alors,
à fait.
En 2005, l'Union européenne est à l'initiative, puis en 2007, il y a un marché créé par l'État français.
Oui.
Et ce marché va échanger, ils vont s'échanger des quotas de carbone.
Il va s'échanger des quotas de carbone et, chose exceptionnelle, sur ce type de matière première, puisque matière première, mais qui est pas première, puisque c'est entre guillemets du vent, c'est des quotas, donc c'est inexistant. C'est juste considéré comme étant une tonne de CO2 avec un numéro, et on va appliquer de la TVA dessus. Et lorsque l'État a donc considéré qu'il y avait de la TVA dessus, eh bien, ça a donné l'idée à certains protagonistes de pouvoir éluder cette TVA.
Alors, il y a cette idée, effectivement, d'un principe pour réduire les émissions, mais de l'autre côté, finalement, un grand flou juridique qui s'installe tout de suite, puisque toutes les entreprises y ont accès ?
Au marché, non. Au marché, il fallait obtenir un agrément pour faire simple. Donc, le Graal, comme je pense l'avait cité dans son livre Aline Robert, c'était de pouvoir accéder à ce marché. Donc, au début, Power Next et après Blue Next. Pouvoir acheter, revendre.
Donc, le marché européen, puis le marché.
Le marché. C'est-à-dire
la bourse
que pour qu'il y ait. Parce que si on va tout de suite sur un peu ce qu'on appelle le carrousel de TVA, mais je ne sais pas si on aborde tout de suite. En fait, il y a une société qui va être basée dans un pays, va acheter en hors-taxe parce qu'elle achète sur cet autre, dans un autre pays, mais lorsqu'elle va le revendre, elle va le revendre sur le marché français, il va y avoir application de la TVA. Et donc, normalement, la TVA, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en paye, même sur des matières premières, du lait, du pain. On achète 10 euros, on revend avec la TVA 12 euros pour faire simple, et c'est le consommateur final qui reverse, qui paye ces 2 euros, sachant que tous les intermédiaires peuvent récupérer la TVA chaque fois qu'elle est versée. À savoir quand même une précision, lorsque vous êtes société et que vous facturez la TVA, vous êtes comptable de l'État. C'est-à-dire que tout ça, c'est basé sur un système de confiance. L'État vous fait confiance, vous facturez de la TVA, vous la reversez lorsque vous la collectez, et vous êtes comptable de l'État.
Alors, quel a été le problème de départ à Aline Robert, puisque finalement, dans les entreprises qui étaient susceptibles d'accéder à ce marché-là, est-ce qu'il y a eu un manque de contrôle ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création de ce marché ?
Alors en fait, je pense qu'il faut préciser qu'il y a deux étapes. D'une part, il y a le registre, qui est une espèce de banque du carbone qui est détenue par la Caisse des dépôts. Et en fait, tout le monde peut, en théorie, accéder à ce registre et avoir un compte carbone. Dans le design de ce marché européen, l'Europe a voulu que tous les citoyens européens potentiellement puissent aller acheter leur petite tonne de carbone s'ils en avaient besoin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis la TVA, parce que finalement, c'était des consommateurs finaux, eux, si c'était les citoyens. Les entreprises, elles ne s'acquittent pas de la TVA. Donc il y a ce registre, tout le monde peut accéder. Puis ensuite, pour avoir accès au marché, effectivement, il faut être enregistré en tant que... il faut avoir un agrément, quoi. Il faut être courtier. Donc il y a un petit peu deux étapes pour... on n'est pas forcé d'être inscrit sur le marché pour y avoir accès. Mais ce marché était très ouvert, effectivement, au départ, parce qu'on estimait un petit peu utopiquement que les citoyens européens, ils allaient se dire « Bon, ben moi, j'émets du carbone parce que j'ai fait un aller-retour Paris-Marseille, donc je vais aller compenser mes émissions en allant acheter des quotas sur le marché. » Ce qui s'est jamais passé, évidemment. Donc c'était un petit peu idiot, en fait, de mettre les citoyens, d'autoriser n'importe qui à avoir accès à ce marché.
Mais sauf que volonté politique.
L'idée
c'était
une forme politique. De prise de conscience peut-être générale de l'empreinte carbone de chacun.
Exactement. Et il y a des ONG d'ailleurs qui avaient pas mal poussé, et notamment Greenpeace, pour que les citoyens puissent accéder à ce marché et pour éventuellement intervenir.
Donc c'était au départ, c'est un outil de politique publique au départ.
C'est tout à fait un outil de politique publique, mais qui est quand même destiné avant tout aux 12 000 sites industriels qui émettent du CO2 et qu'on veut vraiment contraindre de réduire leurs émissions. Et après, on se dit, pourquoi les autres n'y participeraient pas? Mais en fait, ça va, le fait d'ouvrir ce marché à tout le monde, ça va effectivement créer des failles énormes.
En termes de contrôle?
En termes de contrôle, notamment. Et les contrôles qui seront faits seront tout à fait insuffisants, notamment au Danemark, par exemple, il suffisait d'envoyer une photocopie de sa carte d'identité c'était même pas nécessaire d'être européen, en fait, pour s'inscrire sur ce registre du carbone. Donc, en fait, c'était vraiment ouvert à tout vent. C'est comme si vous aviez un marché financier ouvert à tout vent où chacun peut faire ce qu'il veut sans vraiment avoir d'identité. D'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de jeux de la part des fraudeurs sur leur identité. Donc, la photocopie était mal faite, il y avait un T qui était rajouté ou on changeait.
Rajoutait deux lettres, même lettre.
Et du coup, les poursuites étaient plus possibles, en fait, parce que l'identité même de la personne qui avait fait la fraude, on ne savait pas.
Était floue. Mmh. Alors, en 2005, il y a Power Next qui est créé. On va entendre l'extrait d'Intermatin et Nicolas Stoufflet en parler.
Power Next Carbone, c'est le nom de ce nouveau marché qui verra le jour ce matin à 10h. Il fonctionnera ensuite tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à 14h. Sur ce marché, les entreprises s'échangeront par voie électronique des lots de gaz carbonique. Pourquoi une telle transaction? La création de ce marché s'explique en fait par la signature du protocole de Kyoto en 1997. Conformément à cet accord international, les pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et dans chaque pays, des quotas de pollution ont été fixés. Dans ce contexte, la bourse du CO2 présente un énorme avantage. Plutôt que de payer des taxes, les entreprises les plus polluantes vont pouvoir acheter sur ce marché les quantités de gaz carbonique dont elles ont besoin et que d'autres entreprises plus vertueuses mettront en vente sur le marché. Bref, on s'échangera sur Power Next Carbone les fameux droits à polluer, un terme que rejette le directeur général de Power Next, Jean-François Conil-Lacoste.
Je crois que c'est un terme qui est très peu adapté à la circonstance. Il ne s'agit pas d'une facilité inépuisable de mettre de l'argent sur la table et de pouvoir continuer à polluer indéfiniment. Qui dit quota dit limitation. Il y a un stock de quotas qui est limité au niveau européen. Il n'y a pas de droit à polluer. Il y a au contraire, je dirais, une restriction à polluer. Ce que le terme quota, comme on l'utilise d'ailleurs pour quota laitier, quota textile, implique.
Cette bourse française du gaz carbonique ne sera pas réservée qu'aux entreprises françaises.
Non, les quotas sont fongibles au niveau européen. C'est-à-dire qu'ils peuvent être transférés d'un registre national à l'autre sans coût ni délai. Il s'agit vraiment d'un marché européen. C'est une initiative française pour un marché européen jusqu'en 2008 et mondial à partir de 2008.
Donc qu'est-ce qui se passe du côté des professionnels puisqu'il y a l'ouverture de ce marché? Est-ce que le marché se réorganise, le marché des industriels, le marché des entreprises qui, elles, polluent?
Alors, en fait, elles
qui dépassent les quotas.
Toutes les entreprises, elles ont une première contrainte, c'est d'évaluer leurs émissions de CO2.
Qui les évalue?
Alors, il y a des cabinets de conseil, en fait, qui sont spécialisés là-dedans. Et en fonction de ça, d'ailleurs, c'est le problème de ce marché du carbone, c'est qu'on est obligé de s'appuyer un petit peu sur les évaluations qui vont être données aux politiques. Et souvent, c'est la première chose, elles font cette évaluation et elles la gonflent un petit peu. Tant qu'à faire, au lieu de dire qu'elles ont émis 100, elles disent on a émis 110, comme ça elles auront une contrainte de 95 l'année d'après, ce qui leur permettra d'être assez tranquilles. Comment elles s'organisent? Il faut qu'elles, soit elles passent par un courtier, soit en interne, elles arrivent à comprendre ce marché du carbone, elles s'emparent un peu du sujet et elles se disent est-ce que moi, j'investis pour réduire mes émissions de CO2 ou est-ce qu'au contraire, je vais acheter des quotas de CO2, par exemple à un raffineur qui en aurait trop parce qu'il a eu peu d'activité, ou alors à la sidérurgie, notamment en 2008, on a eu vraiment beaucoup trop puisque les hauts fourneaux s'étaient quasiment arrêtés. Donc, il y a une stratégie à mettre en place qui n'est pas forcément évidente quand on est un petit papetier de province, par exemple, mais qui est tout à fait maîtrisée quand on est EDF Trading, qui est un des plus gros acteurs sur le marché.
Donc la taille de l'entreprise variant énormément. Alain Habitant, oui. Ça c'est ce qui se passe du côté des entreprises professionnelles d'un marché très spécialisé. Mm-hmm. Comment est-ce que cette histoire de marché du carbone commence à bruiter dans d'autres environnements, notamment dans un milieu un peu moins connu, un peu plus souterrain, dirons-nous? Comment est-ce qu'on entend parler de ce marché du carbone?
Bon, alors à la base, il faut quand même dire, comme vient de le rappeler Aline Robert, que le système, il n'est pas fait pour être fraudé. Normalement, il est fait pour organiser. Bon, et dans toute organisation, il peut y avoir des gens qui ont assez de finesse, d'intelligence, pour tenter de le frauder.
Vous voyez ça comme ça, vous?
Ben, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que, à la base, Blue Next, Power Next, la Caisse des dépôts, qui prend quand même 40% de mémoire sur Blue Next, c'est pas pour permettre aux gens de frauder. Faut quand même ramener ça à sa juste proportion. La seule et unique chose, je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, c'est qu'effectivement, beaucoup plus tard, en 2012, on supprime la TVA, on se rend compte que cette plateforme Bluenext a servi principalement aux escroqueries à la TVA.
Comment est-ce que ça arrive aux oreilles de gens qui n'ont rien à voir avec ce marché du carbone à l'habitant? Quel est le tout début de l'histoire?
Le tout début de l'histoire, simplement, les gaz à effet de serre, ben, c'est un phénomène de politique internationale. Et puis, il y a des salons, enfin, un des protagonistes de cette affaire va indiquer, bah, écoutez, moi j'étais me promener au salon des énergies renouvelables, et en voyant tout ça, en voyant la photovoltaïque, en voyant tout ça, je me suis intéressé à ce qui se passait dans ce monde-là. Et il s'est aperçu qu'effectivement, eh bien, il allait y avoir ces tonnes de carbone à échanger, et bingo, il se rend compte qu'il va y avoir de la TVA dessus. Et qui dit TVA lui a rappelé certaines réminiscences de son passé judiciaire. Et je pense que c'est à ce moment-là que le phénomène est né dans le cerveau de certains des protagonistes qui sont connus, qui sont sur le net de manière courante. Et qui sont
connus
d'ailleurs
dans le milieu du grand banditisme.
Je ne sais pas si on peut appeler ça du grand banditisme. Je crois que votre émission, comme elle s'appelle, là, ou le thème, c'est « Délinquance en col blanc ». C'est un thème un peu approprié ou inapproprié, c'est pas le grand banditisme. On peut pas parler du grand banditisme parce que ce sont des gens qui font pas partie de ce qu'on peut appeler le grand banditisme. C'est pas des braqueurs, parce que le grand banditisme,
c'est l'escroquerie, alors peut-être.
C'est de l'escroquerie, de la fraude à la TVA.
Alors la fraude à la TVA, elle est connue en économie, elle porte un autre nom, c'est la fraude au carrousel. On va entendre Michel Talley, avocat fiscaliste, en parler dans le téléphone sonne.
On est en plein dans la distinction entre la fraude et l'optimisation, parce que le carrousel, c'est de la fraude. Qu'est-ce que c'est un carrousel? Ça consiste à expédier un produit, par exemple de France, vers un pays limitrophe, disons la Belgique, théoriquement pour y rester. Et donc la TVA est due en Belgique et on se fait rembourser la TVA française sur ce produit. Mais en fait, le produit ne reste pas en Belgique, il revient clandestinement en France, et ça, c'est de la vraie fraude. Et je peux vous dire que l'administration fiscale, maintenant, a fait d'énormes progrès là-dessus. Ils se sont fait surprendre au début du marché, du grand marché en 93, il y a eu effectivement. Mais maintenant, ils ont quand même des moyens, et là, c'est pas un problème de savoir si la loi est bien adaptée, comme dans d'autres sujets. Là, le problème, c'est comment on fait appliquer la loi.
Aline Robert, on entendait justement cette explication sur la fraude du carrousel, qui est une sorte de classique en économie. C'est un peu comme la pyramide de Ponzi, enfin, ça fait partie des grands classiques de la fraude. Alors pourquoi est-ce qu'elle a pu s'appliquer, en l'occurrence, à ce marché du carbone? Peut-être qu'il faudrait revenir sur la définition de ce qu'étaient ces crédits carbone, que l'on échangeait sur ces marchés.
Oui, tout à fait. C'était des produits financiers à qui on a appliqué la TVA, et ce qui est tout à fait...
Donc on a converti les quotas, voilà, en produits financiers.
Et on leur a appliqué de la TVA, c'est le seul produit financier où il y en a. Donc c'est là où il y a un problème. Un produit financier, c'est quelque chose qui est échangé très rapidement. Blue Next, en plus, se target d'être le marché financier le plus rapide du monde. Donc en fait, on va avoir une fraude au carrousel assez classique qui se déporte sur le marché le plus rapide du monde.
Donc il y a un effet multiplicateur.
Il y a un effet boule de neige incroyable qui est lié à cette vitesse d'échange qu'on peut avoir sur un marché financier, et en plus sur ce marché qui était d'une rapidité extrême. On pouvait acheter-vendre très rapidement.
Alors comment se font ces échanges? Est-ce qu'ils se font de gré à gré? Est-ce qu'ils se font exclusivement sur ces marchés? Est-ce qu'il y a des intermédiaires?
Alors il y a les deux. En fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a effectivement... une bonne partie du marché qui se fait OTC, over the counter, donc de gré à gré entre les acteurs.
Donc quelqu'un qui dépasse ses quotas va voir quelqu'un qui est en dessous.
Voilà, mais directement. Ils font un marché. Voilà, sans passer par un intermédiaire ou par la bourse du carbone. D'ailleurs, sur cette partie, il y a eu énormément de fraude et on n'est jamais arrivé à l'évaluer. Donc moi, ça me fait toujours rire quand on donne des évaluations de cette fraude à la TVA sur le carbone de 1,6 milliard. Mais le chiffre est faux, on sait qu'il est faux. C'est forcément beaucoup plus parce que voilà, on n'a pas les chiffres entre entreprises. Donc ça, c'est une des solutions. La solution la plus rapide et la plus rentable quand même, c'est de passer par la bourse du carbone parce que elle avance la TVA en plus. Donc c'est vraiment.
Alors c'est bourse qui avançait la TVA. Quel était le rôle de l'État là-dedans?
C'est la bourse Blue Next qui avançait la TVA. C'est pour ça que la fraude s'est particulièrement développée sur ce marché. Autrement, la fraude au carrousel, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut monter plusieurs sociétés différentes, acheter hors taxe à l'étranger, par exemple en Belgique, et ensuite revendre à une des sociétés que l'on a en France. Et la revendre à une autre société. Il y a une espèce de, vous voyez, les quotas doivent, enfin les produits doivent les tourner produits, oui. Entre différentes sociétés pour qu'on perde leurs traces.
Des sociétés qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs.
Qu'on n'a pas, mais en fait c'est vrai que c'est un peu l'arme du crime, la société et la société bidon surtout dans la fraude financière dont vous êtes coutumière, j'imagine, dans cette émission. Mais c'est
de la fraude, non.
Non, mais des sociétés bidon, j'imagine. Oui, créer une société pour faire diverses fraudes, c'est vraiment un classique, même quasiment de l'optimisation fiscale, mais surtout de la fraude fiscale.
Tellement un classique qu'on se demande, Alain Habitant, comment la question n'a pas été posée en amont, comment les pouvoirs publics n'ont pas prévu ce scénario-là qui a été prévu par les escrocs auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, très malin.
Alors les escrocs d'abord sont très astucieux, ils trouvent souvent, ils peuvent trouver des failles. Mais encore une fois, c'est un système, la TVA, où on est comptable de l'État. C'est basé sur la confiance. L'État vous fait confiance de pouvoir récupérer de l'argent pour le reverser. Avec cette précision par rapport à ce que disait mon confrère et ce que dit Aline Robert, c'est que les gaz à effet de serre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est immatériel. C'est-à-dire que normalement, le carrousel de TVA, classiquement dans le droit pénal et dans les escroqueries à la TVA et à la fraude à la TVA, il fallait que les téléphones soient achetés en Angleterre, revendus au Danemark.
Oui, parce que normalement, c'est une fraude qui s'applique plutôt à des jeans, à des téléphones, à des ordinateurs, en tout cas à des objets.
À des objets.
Alors comment ça se passe justement la fraude au carrousel quand ça concerne des objets?
Ben, les objets, c'est très simple. Vous allez acheter des téléphones, donc comme vous allez acheter à l'étranger. Enfin, l'étranger, mais faisant partie de l'Europe, vous êtes exonéré de TVA. Et comme l'a expliqué Aline Robert, vous le revendez en France avec la TVA. Et normalement, vous devez, encore une fois, vous achetez 100 euros un téléphone, vous le revendez 120 euros, puisqu'il y a de la TVA.
Vous devez reverser 20 euros
à l'État, enfin au fisc. Là, en l'occurrence, ce qui était extraordinaire, c'était que non seulement c'était immatériel, et que, comme l'a bien expliqué Aline Robert, Bluenext se targue d'être la plateforme la plus rapide. En 15 minutes, on fait les achats et les reventes. Donc, et là, la chose la plus merveilleuse dans ce système, c'est que c'est l'État, donc c'est Bluenext, et par la main de la Caisse des dépôts, qui va facturer, qui va normalement encaisser, et qui va reverser le prix de la tonne de TVA, le prix de la tonne avec la TVA. C'est-à-dire que là, on va payer celui qui doit normalement reverser la TVA à l'État, au lieu de la garde en interne, la reverse par le schéma classique à la société qui a vendu 120 euros. Les 20 euros auraient dû être versés et les 120 euros sont pas versés, même ils sont même pas versés en France de mémoire. C'est souvent versé à des sociétés qui sont à l'étranger, qui sont en Lettonie, qui sont même
au Panama, dans les
Dubaï,
paradis fiscaux.
Et c'est l'État qui verse ça.
C'est la Caisse des dépôts, c'est pas l'État.
Oui.
Donc ouais, là, c'est la Caisse des dépôts, c'est quasiment
l'État. La main de l'État qui reverse. C'est extraordinaire. Oui, personne n'y a pensé. En tout cas, pendant cette marge de temps, personne n'y a pensé. Avec cette précision quand même, que chaque tonne avait un numéro. Ça veut dire que s'il devait y avoir un contrôle, le contrôle pouvait tout à fait s'effectuer parce que cette même tonne de TVA, cette même tonne qui comprenait de la TVA, était acheté et revendu plusieurs fois dans la journée.
Alors, est-ce que c'était tout de suite illégal, ce qui s'est passé? Est-ce que la fraude a été tout de suite illégale ou est-ce qu'elle était, comme certains principes de maximisation fiscale, elle était sur une sorte de frontière de vide juridique?
Je pense que c'est plutôt une frontière, parce que normalement le système, il aurait pu être... Non,
elle est pas d'accord. Non, ouais,
Elle est pas d'accord.
Non, moi je pense que c'est complètement illégal, dans la mesure où les entreprises qui faisaient les échanges en question n'avaient aucun intérêt à le faire. Elles avaient changé exprès leur objet social
pour pouvoir faire
du CO2.
Vous voulez dire que nul n'était bien intentionné.
Voilà, nul n'était bien intentionné dans les fraudeurs du carbone.
Sauf que là,
quand même.
On parle des sociétés qui ont fraudé. Mais à la base, le système, il n'est pas fait pour que les fraudeurs puissent le faire.
On est d'accord.
Il est fait pour qu'il y ait des échanges et pour que ça reste dans cette politique européenne du protocole international, du protocole de Kyoto et la mise en place des moyens pour que le protocole de Kyoto soit respecté.
Donc, alors que l'Union européenne a essayé de mettre en place un système de limitation des effets de serre et se dit que peut-être elle va créer une prise de conscience écologique, il y a un marché très fructueux qui monte. Mm-hmm. Et que se passe-t-il? Quels sont les profils des protagonistes du côté de ceux que vous avez pu fréquenter, maître habitant, à savoir du côté des escrocs, comme vous les appelez, en col blanc?
Ils ont un profil, on va dire, je ne sais pas si on peut dire classique ou pas, puisqu'Aline Robert suit quasiment tous les procès.
Alors, ça se passe à Paris au départ?
Ça se passe... Écoutez...
Et à Marseille?
C'est pas, on parle, vous savez, du protocole Kyoto, Europe, etc. La France, c'est pas le seul pays dans lequel il y a eu ces fraudes. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez des tas de pays en Italie où il y a eu de très très gros dossiers d'escroquerie. Voilà. Donc
Une caractéristique peut-être qu'on peut préciser, c'est que souvent ils ont déjà fait de la fraude à la TVA. C'est des pros de la TEV. C'est un peu comme ça qu'on
dit, c'est la fraude de la TEV. C'est des pros de la TVA. Oui. Alors je vous dis quand.
Donc le profil.
Profil, je sais pas comment qualifier. C'est quoi? C'est des gens qui ont pas fait forcément beaucoup d'études. C'est des gens qui sont assez simples, mais qui ont.
Qui étaient dans quel genre d'activité auparavant?
Écoutez, ceux qu'on connaît, il y en a qui ont été effectivement, comme vous le disiez, dans le jean, dans la téléphonie, dans quoi d'autre? Je sais pas. Dans la pub, la vraie fausse pub.
Enfin, des arnaques, quoi. Des arnaques à la pub, des arnaques à l'assurance. Il y a quand même
du blanchiment aussi. Je veux dire, c'est quand même des délinquants. Mmh. Donc, les délinquants, ils viennent avec des casiers judiciaires qui donnent effectivement à penser au tribunal, puisque le tribunal doit examiner la personnalité des prévenus, à se dire, bon, bah, ils sont coutumiers du fait. Et sincèrement, même nous, avocats, quand on arrive sur des dossiers comme ça, c'était très nouveau, même si le principe du carrousel TVA est connu. Eh bien, il a fallu un peu de temps pour comprendre comment ça se fonctionnait.
We'll be right back.
écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besri.
À la tête de cette vaste escroquerie, on retrouve une douzaine de personnes, certaines sous les barreaux, comme Arnaud Mimran et Marco Mouli, condamnés à 8 ans de prison en appel. D'autres sont en cavale, comme Cyril Astruc, qui a écopé avant-hier de 9 ans d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel de Paris a aussi confisqué, pour la forme au moins, la villa d'Herzliya, dans la banlieue chic de Tel Aviv. L'année dernière, Astruc posait dans Vanity Fair, jolie montre et sac en croco en évidence. Il disait qu'il voulait régler ses histoires, mais il a disparu avant l'audience. Il aurait rejoint Israël en bateau. Le système judiciaire, très différent du nôtre, protège ces escrocs présumés jusqu'à un certain point, car la coopération progresse et la société israélienne est exaspérée par leurs frasques. Certains ont fait étalage de leurs richesses en festoyant avec la jet set. Marco se vante d'avoir inspiré à l'humoriste Gad Elmaleh le personnage de Coco qui ne savait plus comment dépenser son argent. Pour les enquêteurs, pourtant, ces personnages n'ont rien d'attachant parce qu'ils ont coûté cher aux finances publiques, 1,5 milliard d'euros en France. Parce que le sang a coulé aussi, entre rivalité et rencontre avec le crime organisé, il y a eu plusieurs assassinats chez ceux qui faisaient sauter la banque sans sortir une arme. Et parce qu'ils font tout pour qu'on ne récupère pas l'argent, fulmine un magistrat. Pour eux, la prison, c'est un accident du travail. On attrape en général les petites mains, les gérants de paille qui se recrutent dans l'entourage ou au bar du coin. Un escroc avait par exemple envoyé tout son club de pétanque ouvrir des comptes à Hong Kong.
Aline Robert, est-ce que vous pouvez nous compléter ce portrait qui est fait justement dans le prétoire de France Inter du 15 septembre dernier, à savoir le milieu de ce dont on parle, un milieu qui flamberait, qui aurait fait étalage justement de cet argent gagné sur le dos de l'État.
C'est vrai que c'est un milieu dont beaucoup d'entre eux, beaucoup des fraudeurs, je pense, viennent d'un milieu assez simple. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous parlez de criminalité en col blanc. Je me rappelle avoir parlé avec un avocat de chez Gide Loiret-Noël de ce dossier de fraude à la TVA. Ils font de la fraude à la TVA chez Gide, hein. C'est pas un secret. Mais quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit « Ah, écoutez, nous, on fait plutôt de la criminalité en col blanc, justement. »
Alors pour eux, c'en est pas.
Pour eux, voilà, pour eux, c'est pas du col blanc. En fait, c'est une question d'origine sociale, je pense. C'est des fraudeurs qui ne connaissaient pas. C'est pas des chefs d'entreprise du CAC 40. C'est pas des chefs d'État véreux d'Afrique. Donc, c'est marrant. Il y a vraiment une question un petit peu sociale, en fait. Et c'est vrai que on retrouve un peu une caractéristique en tout cas dans la fraude à la TVA qui a été faite en France, la France et le sud de l'Europe ont été victimes d'équipes qui étaient souvent franco-israéliennes, alors que le nord de l'Europe, c'était plutôt des indo-pakistanais d'origine britannique. Donc en fait, ils se sont un peu répartis le marché, et dans les deux cas, c'était des gens qui avaient rejoint la métropole après la décolonisation, qui avaient dans des conditions pas forcément faciles, et qui avaient un peu une revanche à prendre sur l'État, qui sont devenus des pros de la TVA un peu de père en fils. Et on les retrouve là, en train de faire cette escroquerie.
Évoluant au gré d'un capitalisme dématérialisé, justement, qui a rendu l'arnaque un peu différente, justement, sous ses formes, puisqu'il s'agit plus effectivement d'objets, mais il s'agit d'agir en quelques clics sur un marché. Il y a la question, effectivement, de l'ampleur de l'arnaque. L'arnaque est énorme.
Ben voilà, en fait,
l'arnaque était mal à les chiffrer.
C'était des petits escrocs, ils ont fait une arnaque énorme, tout simplement parce que ça allait très vite sur ce marché, mais aussi parce que ils sont allés chercher des fonds pour amorcer auprès d'équipes de mafieux.
C'est là où il y a un rapprochement, en fait.
Et ils ont travaillé avec.
Les fonds de départ proviennent de mafia.
Ben, en fait, les fonds de départ, ils les avaient pas forcément. Donc, ils sont allés les chercher là où il y avait de l'argent.
Pour investir dans l'arnaque.
Voilà, dans des milieux où l'arnaque n'était pas forcément si répandue que ça, dans des milieux qui avaient simplement envie de se faire de l'argent rapidement, mais aussi du côté de mafia ukrainienne, comme les Vori Izakone, qui sont quand même des gens particulièrement dangereux. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu des meurtres assez rapidement. Mais ils ont travaillé aussi avec les Corses, pas mal, dont... Ensuite, on a eu pas mal d'histoires de raquettes parce que les fraudeurs, ils se sont retrouvés à la tête de montants faramineux, mais ils promettaient un rendement qui était inférieur à ceux qui se faisaient vraiment. Donc, ceux qui avaient investi au départ, quand ils comprenaient qu'ils s'étaient fait avoir, ils étaient un peu énervés.
Donc, plusieurs milieux quand même de banditisme, d'escroquerie qui se mélangent, justement, à l'habitant.
Qui se mélangent, qui sont... effectivement, cet argent est facilement gagné. Hein, tout à l'heure, vous parliez du clic. Il faut savoir que dans le milieu policier et douanier, qui ont été très forts sur ces enquêtes, faut les féliciter quand même. Ils appellent toutes ces équipes la brigade du clic. C'est la bande à Bader, enfin pas à Bader parce que c'est pas politique, mais c'est vraiment la brigade du clic. Ils sont dans un cybercafé, faut quand même imaginer. Il y a beaucoup de transactions qui sont faites dans un cybercafé. C'est même pas, je crois même pas qu'il y avait une clé de sécurité pour pouvoir acheter les quotas sur Bluenext. Ça se faisait dans un cybercafé.
Alors il faut quand même investir au départ, donc il faut aller chercher des fonds.
Alors,
dans une économie souterraine.
Comme on l'a souligné plusieurs fois, c'est l'État qui va reverser le montant avec la TVA. C'est pour ça l'ampleur. On va pouvoir, plus on investit, plus on a d'argent. Donc, si vous investissez 10 euros, vous avez 12 euros, et vous avez 2 euros, mais si vous investissez 100 000 euros, ça fait un montant, et si vous mettez 1 million d'euros, c'est pas les mêmes. Et comme effectivement, ces quotas, ils tournent, ce sont les mêmes numéros de quotas qui tournent plusieurs fois dans la journée, et que c'est l'État à chaque fois qui paye, parce que c'est l'État qui paye, le mandat de facturation dont on parlait tout à l'heure, il y a des protagonistes de ces affaires qui se vantaient de gagner des 100 000, des 500 000 euros par jour.
Quand même, il faut passer par un certain nombre de mécanismes, notamment il faut multiplier les sociétés pour que ça fonctionne, Aline Robert.
Il faut avoir mis en place au moins deux ou trois sociétés.
Au moins trois, je pense.
Avec des gérants, ce qu'on appelle les gérants de paille.
Il faut voir les gérants. Voilà. Le premier dossier sur lequel on s'est connu avec Aline Robert, les gérants de paille, c'était quoi? Un livreur de pizza, c'est ça?
Ouais, enfin, c'est souvent des gens qui sont allés récupérer dans la rue on leur a demandé une photocopie de leur carte d'identité et une signature.
Contre un peu d'argent.
Contre un billet, voilà.
Contre pas grand chose. Je sais même pas s'ils ont été payés du petit billet. Non, mais sérieux. Pour parler tout à l'heure du contrôle, et après on retournera si vous voulez bien sur la personnalité, mais je pense à une chose, c'est que non seulement le Bluenext ne faisait pas le contrôle, mais que même, normalement, ces sociétés auraient dû faire des déclarations de TVA. Et on voit la première société sur laquelle on s'était connu, quasiment pendant 9 mois ou 10 mois, il n'y a pas eu une seule déclaration de TVA. Alors qu'il faut savoir que quand n'importe quelle société a un jour de retard sur une déclaration, il reçoit tout de suite une lettre de relance du fisc. Donc il y a eu des manquements quand même, il faut le dire.
Et il faut passer aussi par des comptes offshore pour réussir à transformer cet argent.
Le problème, c'est qu'il y a un petit peu des solutions clés en main pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des...
Il y a un parcours tracé.
Il y a des solutions qui existent, notamment à Marseille. En ce moment, il y a lieu à Paris le procès qu'on appelle du carbone marseillais, parce que c'est le plus gros dossier, 385 millions d'euros. Et donc, il y a une grosse partie de la fraude est passée par là. En fait, c'était des réseaux d'entreprises. Ils utilisaient les mêmes entreprises que d'autres acteurs du blanchiment local, et notamment que la mafia corse. Et on a aussi des sociétés comme France Offshore qui organisaient vraiment l'évasion fiscale et proposaient des sociétés clés en main qui faisaient ça.
La société a été condamnée, le dirigeant a été condamné, mais il faut quand même savoir que cette période où il y a même les enquêtes qui sont déclenchées, etc., qu'en tapant sur Internet, vous aviez effectivement cette solution clé en main. Créer votre société à l'étranger, en 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus ce qu'il proposait, récupérer une carte bleue, un chéquier et un mode de fonctionnement qui, en tout cas, même moi en tant qu'avocat, lorsque je voyais le site Internet, il y avait le logo de, pour ne pas le citer, je crois, du pays, la Lettonie, je crois que c'était la Lettonie, hein. Il y avait vraiment le logo du pays. Donc pour moi, c'était une grande interrogation, dire comment on peut reprocher à certains de nos clients le fait de se faire payer à l'étranger, alors qu'en France, en cliquant, c'était avenue Victor Hugo, vous pouvez aller chercher en 48 heures une société clé en main qui vous permettait d'être payé par la plateforme Bluenext à l'étranger.
Donc l'État se retrouve en quelque sorte, s'est retrouvé à blanchir aussi cet argent d'une certaine manière à travers la Caisse des dépôts et consignations.
Alors, moi, c'est ma théorie, c'est marrant, je suis la seule à la défendre, parce que même la Cour des comptes, quand elle a fait son rapport sur le sujet en 2012, n'a pas osé utiliser le mot blanchiment contre cette respectable institution qu'est la Caisse des dépôts et consignations. Mais globalement, ils ont envoyé des centaines de millions d'euros au Panama, aux Seychelles, à Hong Kong, et dans des lieux où on ne peut pas faire de poursuites. Donc oui, ça s'appelle du blanchiment, en fait, comme opération. Et c'est quand même ça qui est un petit peu surprenant. Et dans les autres choses dont ils ne se sont pas aperçus, parce que c'est eux qui tenaient le registre, il faut savoir qu'il y avait quand même des fraudeurs qui étaient inscrits, leur adresse email avec lequel ils correspondaient avec les gens du registre, c'était par exemple dancoco8@gmail.com. Mais c'est juste un exemple, mais on peut bien imaginer que c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux qu'il y a derrière. Et pareil pour les sociétés, il y avait une société qui s'appelait Carbonara, il y en a une autre qui s'appelait iVanish Limited, Label 5, on imagine que c'est des mecs en train de voir...
C'est là où c'était haut en couleur, parce qu'on on a tout eu.
Ils se sont bien amusés,
on comprend pourquoi la fiction, d'ailleurs la fiction a repris depuis cette histoire-là, passablement transformée, romancée,
très
etc. Mais la fiction s'est quand même inspirée de cette histoire qui, en elle-même, est extrêmement romanesque dès le début.
C'est pas fini.
Alors il y a les voyages d'ailleurs.
Il y a les voyages en avion personnel pour aller faire du ski de l'autre côté de la terre. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'argent facilement gagné.
Et personne qui s'en cache.
Et ils ne s'en cachent pas du tout à cette époque.
C'est plutôt l'inverse.
Ah non.
Non, c'est plutôt l'inverse, ils ne s'en cachent pas.
Oui. Ils le montrent.
Certaines démonstrations. Ils l'ont montré, mais je pense qu'ils, je sais pas, c'est une sorte de fuite en avant. Je sais pas, c'est presque psychiatrique, parce que comment, je sais pas, il y a cette expression, pour vivre heureux, il faut vivre caché, mais là, elle le montrait plus qu'ouvertement.
Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Parce qu'il y a des rapports aussi, comme toujours en matière de fraude, il y a la question de la collaboration entre les États, et là, il y a plusieurs États qui sont concernés, y compris pour les arnaques qui ont commencé en France, à savoir, cet argent a circulé, notamment en Israël.
Il n'y a pas qu'en Israël.
Il a
circulé
Israël.
Surtout...
on en a
surtout,
pas mal parlé.
Comment dire, en Europe, hein, en Italie, il y a eu Dubaï, il y a eu Hong Kong. Donc on ne peut pas se focaliser que sur Israël, évidemment.
C'était un exemple donné.
Non, mais il faut quand même le dire. Il y a eu, et notamment ce que disait Aline Robert, c'est que les sociétés, par exemple, si on avait une société qui s'appelait France Culture Carbone, eh bien, ils créaient une société qui s'appelait France Culture Carbone, mais qui était à Dubaï. Ou qui était à Hong Kong, et l'argent était reversé là-bas. Donc après, il y a tout un système, effectivement, pour rapatrier cet argent. Ils n'ont pas toujours trouvé le système pour le rapatrier sur le territoire national, encore que ces gens pouvaient avoir des comptes dans d'autres pays. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que... Mais par exemple, l'Italie a fait une sorte de principe de précaution. Moi, je sais que, c'est-à-dire que quand ils ont eu un soupçon, hein, la brigade financière italienne, c'est pas le même système, il n'y a pas de juge d'instruction, c'est une enquête du parquet. Et la brigade financière, quand elle a compris que sur certains, par exemple sur l'électricité ou les green certificates, parce que après la fraude, elle passe sur d'autres choses, ils ont gelé les avoirs. Notamment, je sais que moi, j'avais un contact sur une société qui a eu quasiment 9-10 millions d'euros de bloqués comme ça, qu'on n'a pas pu récupérer.
Sur cette question de circulation entre les pays, effectivement, le côté nomade de ces transactions immatérielles et de l'autre côté, la possibilité de voyager, de circuler, etc., va énormément brouiller les pistes. Et ça va faire, Aline Robert, que l'histoire va durer quand même quelques années. L'arnaque.
En fait, la fraude à la TVA sur carbone, oui. C'est assez court. Ça commence en 2008 et ça se termine début 2009. En tout cas en France, parce qu'à partir de mai 2009, on supprime la TVA sur le carbone. Ensuite, ça continue un petit peu dans les autres pays qui vont mettre chacun un petit peu de temps à supprimer la TVA sur leur marché et à trouver une solution. Et notamment en Italie, ça a pu durer pendant plusieurs années et les fraudeurs ont... Notamment français,
ils se sont reportés, ils ont voyagé.
Même en prison en France, ils continuent à faire de la fraude en Italie. Donc, c'était possible de continuer ça. Ce qui a été long, c'est de faire les enquêtes et d'essayer de tracer l'argent, suivre l'argent, essayer de l'identifier. Parce que, voilà, vous connaissez le problème de l'évasion fiscale, c'est qu'à un moment, il y a des coupes-circuits et que, ben voilà, l'argent est mis tout en Turquie, il passe d'une banque à l'autre et
on perd la trace.
Et on perd la trace.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des soupçons de la part de l'État et de ses agents, maître habitant?
soupçons, à mon avis, sont venus par le volume de quotas échangés. Je pense que c'est ça, Aline Robert.
En fait, il y a eu des alertes très rapidement. Dès 2008, la place de marché a fait des alertes à Tracfin pour dire attention.
Tracfin qui s'était...
C'est les banques, en fait, et les acteurs du marché qui ont fait des alertes à Tracfin à n'en plus finir. Et honnêtement, du côté du ministère du Budget, la réaction a été très, très lente. Et il y a des courriers, soi-disant, qui ne sont pas arrivés sur le bureau d'Éric Woerth, qui était ministre du Budget à l'époque, mais la réaction a été étonnamment lente. Et ce qui est aussi étonnant d'ailleurs, c'est que les responsables de l'époque, qui ont quand même perdu plusieurs milliards d'euros, ça c'est certain, on parle de Christine Lagarde et d'Éric Woerth, qui étaient ministres de l'économie et du budget, et ben ils soient aujourd'hui à la tête du FMI et de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons de cette fraude.
Au début, les escrocs ne savaient pas si leur plan allait marcher. Les premières semaines, ils tremblaient de peur que les banques ne bloquent l'argent, raconte un prévenu. Mais non, et tout le monde s'est régalé, lance un autre. Samy Souyed, abattu en 2010 à Paris, se vantait d'avoir gagné 200 millions d'euros qu'il gardait en espèces. Vous vous rendez compte? Cela fait 10 à 15 valises, calcule Patrick Belaïche. Il en avait confié 40 millions à un de mes petits cousins qui les avait enterrés dans son jardin à Jérusalem. Les organisateurs présumés du casse du siècle n'étaient pas des novice. Mais en 2008, Samy Souyed aurait dit « On arrête les escroqueries à la petite semaine ». Avec le carbone, son ami Marco a un plan béton. Il trouve des sociétés dont il change l'objet social et augmente le capital pour inspirer confiance. Ils ouvrent des comptes à l'étranger. À Chypre, c'est trop facile, raconte Marco. Tout est prévu, même le passage éventuel par la case prison. Ma famille aurait dû toucher de l'argent, une sorte de protection juridique, reconnaît Belaïche. Il affirme aussi qu'une partie du magot est toujours à l'abri.
Alors c'est le procès des escrocs au carbone. On est en 2016, le 5 mai 2016 au moment de ce reportage de France Inter. Et on voit que c'est le moment des règlements de compte. Alors règlements de compte d'ailleurs dans tous les sens du terme, puisqu'ils ne seront pas que financiers ces règlements de compte, Aline Robert.
Oui, il y a eu plusieurs meurtres à la clé, dont l'un, sans doute le premier, en plein milieu de la fraude, et ensuite plusieurs après, des règlements de compte entre fraudeurs qui s'étaient sans doute arnaqués les uns les autres, et avec sans doute d'autres acteurs. Mais honnêtement, on n'a aucun règlement.
Pour l'instant, les enquêtes sont un peu au point mort, sur les meurtres en tous les cas, je pense.
L'un qui a eu lieu en plein Paris.
En plein Paris, porte-maillot. Il y a toujours les enquêtes qui sont en cours. Encore, il faut le dire, ces enquêtes sont très longues, comme le disait Aline Robert. Ça fait plus de 8 ans, les dossiers ne sont pas terminés. Et les dossiers, d'ailleurs, ils sont obligés de les saucissonner, on va dire, les couper pour une période, et laisser perdurer le dossier ouvert chez les juges d'instruction. Parce que normalement, classiquement, dossier, enquête, juge d'instruction, l'enquête se poursuit, après on renvoie les gens devant le tribunal correctionnel, une condamnation. Et là, en fait, ces dossiers sont tellement tentaculaires que si on attend, ça sera quasiment jamais jugé. Donc, ils vont prendre une période, mettons tel mois, telle société. Et c'est pour ça que je vois dans la presse, vous avez parfois des dossiers qui s'appellent, c'est le dossier Crépuscule, c'est le dossier Intel, donc ils donnent des noms comme ça.
Du nom de la société
qui a été la plus grande. Donc là, c'est pour ça qu'Aline Robert disait le dossier marseillais. Ils sont obligés de le scinder comme ça. Donc oui, effectivement.
Donc la justice, elle aussi, doit s'adapter à ce nouveau type d'arnaque et à ces dossiers tentaculaires.
Tout à fait. Et c'est vraiment des dossiers tentaculaires. Hein, parce que quand vous allez chez le juge d'instruction, que vous êtes désigné et que d'un seul coup, vous avez un mur entier de papier qui est sur CD-ROM et que vous devez au moins le lire, parce que il faut quand même être sérieux, pour comprendre comment ça fonctionne. Je vous dis, heureusement que les enquêtes sont aussi bien faites. Je refélicite l'enquête telle qu'elles sont faites, parce qu'elles sont véritablement... Le schéma est complexe. On ne peut pas dire qu'il est compliqué, il est simple, mais il est complexe de par le nombre de sociétés, le nombre d'intervenants, le nombre de pays sur lesquels ça se passe.
Aline Robert, en juin 2009, la France supprime la TVA sur les quotas. Comment ça se finit, cette histoire ?
En fait, ça a été un peu long, mais au niveau européen, ils sont arrivés à s'accorder sur un système, ça s'appelle l'auto-liquidation. Donc, on change le système de TVA comme sur tous les produits qui sont un peu à risque. Et aujourd'hui, au niveau européen, on songe à faire ça sur tout, en fait. Parce que cette histoire de TVA continue, la fraude à la TVA continue sur d'autres produits. Et les États européens commencent à se rendre compte qu'ils pourraient éviter de perdre 180 milliards d'euros par an en modifiant leur système, leur régime de TVA, ce qui paraîtrait une bonne idée, mais il faut que les 28, enfin 27 maintenant, États se mettent d'accord.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire des sanctions? Il y a évidemment des peines de prison qui tombent, il y a eu aussi des règlements de compte et des meurtres du côté justement des arnaqueurs. Qu'est-ce qu'on peut dire des sommes reversées? Est-ce qu'elles reviennent ou est-ce qu'elles reviendront un jour à l'État français? Est-ce qu'il est impossible de récupérer cet argent de la fraude?
Honnêtement, c'est bien là le drame, je trouve, c'est que en fraude à la TVA, les montants recouvrés, ils atteignent même pas 1%. Et sur la fraude sur le carbone, comme sur les autres fraudes, le seul endroit où l'État récupère un peu d'argent, c'est avec les cautions. Et notamment les cautions du dossier marseillais, il y en a une qui a plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais l'argent en lui-même, on arrive à le tracer, on essaie de l'identifier, on voit des... notamment de l'immobilier qui a pu être acheté un peu partout aux États-Unis, en Israël ou en France ou ailleurs. C'est très compliqué de prouver que cet argent était en lien avec la TVA. Donc à la fin, non, l'État, c'est des pertes nettes, c'est des milliards de pertes nettes. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette histoire de fraude, parce que pour les citoyens que nous sommes, c'est quand même une inconséquence et une malgestion de la part de l'État qui est impressionnante.
À l'habitant.
C'est-à-dire que quand on met dans la balance, on va dire 200 millions, 300 millions, là, on citait 385 millions, la partie visible, parce que je pense que les dossiers, il va parler de 380 millions, mais peut-être que c'est 700. C'est juste la partie visible. Et vous avez la sanction ultime, maximum, ce qui était prononcé, je pense, la dernière fois dans le dernier procès, c'est 7 ou 8 ans, je crois.
8 ans, ouais.
8 ans, avec une peine d'amende de 1 million d'euros, je crois.
Ils sont censés rembourser les montants volés, ce qui n'arrive
jamais,
bien sûr.
Oui, mais bon, ça ne sera jamais remboursé. C'est pas possible. L'argent a disparu, mais il est disparu. C'est pas qu'ils ont, comme tout à l'heure j'entendais, dans des valises cachées. Je pense qu'il a été extrêmement dépensé. Hein. C'était des flambeurs. Parce qu'encore une fois, argent vite gagné, facilement, très facilement dépensé.
Cette arnaque n'est plus possible aujourd'hui. Bluenext s'est vu retirer son autorisation d'opérer justement sur les marchés.
Bluenext a fermé en fait.
Elle a fermé.
Une faillite économique. Ils n'avaient plus de business. Ils ont été décrédibilisés par ça. Après, il y a d'autres marchés en Europe. L'arnaque n'est plus possible sur le carbone, mais elle est encore
être réinventée.
Le montant des transactions avant l'interdiction de la TVA et après, je ne me souviens plus, mais c'était avant.
Elles ont baissé de 80%.
C'est ça, 90%.
Et à cette heure-ci, c'est l'heure des nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjona Andrade.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, j'ai voulu revenir justement sur cette fameuse décision de créer un marché européen du carbone qui n'avait à l'origine rien d'une évidence. C'est même l'idée d'une taxe carbone qui avait le vent en poupe, portée notamment par la France et le président Sarkozy. L'intérêt d'une telle taxe était de décourager les activités polluantes et fortement émettrices en faisant payer en amont les pollueurs à proportion de leurs émissions. C'est le principe du pollueur-payeur.
Mais finalement, ce n'est pas celui-ci qui a été retenu.
Et non, pour des raisons de désaccords politiques et de difficultés de mise en œuvre, mais aussi de lobbying important des principales industries, c'est finalement le marché européen de quotas carbone qui l'a emporté. La taxe donnait un prix fixe au carbone, alors qu'avec un marché, les autorités établissent un plafond aux émissions. Si les entreprises carburent au carbone, elles sont pénalisées financièrement. Si elles réduisent leurs émissions, elles peuvent revendre leur droit à polluer. Sous couvert d'une plus grande liberté et d'une incitation à bien faire, ce système a permis des dérives similaires à celles d'un marché traditionnel lorsqu'il n'est pas régulé correctement. Comme l'affirme Christian de Pertuis, économiste du climat, le marché du carbone est une construction artificielle. Introduite par l'autorité publique, cette construction peut donc disparaître.
Alors quelle solution propose-t-il pour garantir justement un meilleur fonctionnement?
Eh bien pour l'économiste, la crédibilité du marché du carbone repose à court terme sur un renforcement de sa régulation. Il plaide ainsi pour la création d'une banque centrale du carbone qui aurait une capacité d'intervention et une crédibilité suffisante pour modifier le comportement des industriels. Celle-ci aurait pour mandat de gérer des quantités de quotas et la dynamique des enchères et d'en rendre compte publiquement devant le Conseil et le Parlement européen. Cette proposition qui semble intéressante pour réguler le mécanisme actuel, mais on peut s'interroger sur la pertinence de passer par les outils traditionnels du marché pour protéger la planète. De fait, l'Union européenne n'a pas réduit les émissions de gaz à effet de serre en raison notamment d'un excès de permis d'émissions gratuits et de crédits bon marché. Comme on le dit dans le jargon écologique, il ne s'agit pas de promouvoir une soutenabilité faible mais forte. C'est-à-dire qu'on ne peut se satisfaire de compenser financièrement la destruction de l'environnement, il faut le sanctuariser.
Et ça passe difficilement par les mécanismes du marché.
Et oui, car le marché, par son fonctionnement même, conduit les acteurs à opérer une analyse rationnelle de préférence. Est-ce que j'ai intérêt économiquement à réduire mes émissions de carbone? ou est-ce que je préfère plutôt continuer mes activités polluantes en payant pour cela? Dans de nombreux cas, l'entreprise aura intérêt à ne rien changer. La même question est posée par des sujets très divers, comme l'inclusion des minorités, les inégalités hommes-femmes, ou même le développement de l'électricité dans un pays en développement. Est-ce que l'on agit par souci de rentabilité économique, ou est-ce que ces considérations peuvent avoir une partie éthique qui rentre en jeu? Si des études pointant le coût économique des discriminations se multiplient ces dernières années, on peut se poser la question de leur pertinence et s'interroger sur les applications morales de telle analyse. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, ces études montraient qu'il est plus avantageux de discriminer? La même question se pose pour la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est ici que se pose la question des pouvoirs publics. Ceux-ci doivent pouvoir agir de façon à ce qu'il n'y ait pas seulement ces questions économiques qui rentrent en compte, c'est à eux de mettre en place des mécanismes et des politiques publiques pour protéger la nature comme bien commun, sans tenter nécessairement de lui donner un prix.
C'était Give a Prayer par le groupe Diaspora. Merci Aline Robert et merci Maître Alain Habitant.
Merci de nous avoir invités.
Merci beaucoup. Aline Robert, je rappelle le nom du livre que vous avez publié à la suite de votre enquête, Carbone Connexion, et c'est publié chez Max Milo. Vous pouvez réécouter nos émissions autant que vous le voudrez et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, @mbesri, hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux fraudes Paradise, Panama et autres papers.